7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Vous êtes physicien, philosophe des sciences, producteur de la conversation scientifique sur France Culture. Vous attelez depuis de nombreuses années à la vulgarisation scientifique. Vous allez avoir beaucoup de travail aujourd'hui parce que je vous ai convié pour la fête de la science, parce que vous publiez un ouvrage sur le vide et vous allez nous expliquer en quoi il peut intéresser un physicien et aussi toute personne honnête qui aimerait s'intéresser aux réalités de la physique. Et puis aussi parce que c'est la semaine des Nobel. Alors aujourd'hui, il y a les Nobel de littérature qui vont bientôt être décernés et le prix Nobel de physique, lui, il a été décerné mardi. Il a été décerné à 3 chercheurs qui nous font regarder différemment l'univers, paraît-il, le Canadien James Peebles, Michael Mayor et Didier Queloz, deux astronomes suisses, qu'ont-ils découvert?
Alors, on commence peut-être par James Peebles, qui est un astrophysicien d'origine canadienne, mais en fait américain, qui a travaillé sur des modèles d'univers, des modèles de Big Bang, et c'est lui qui a fait le modèle standard qui permet de comprendre l'univers composé de matière, la matière que nous connaissons, mais aussi de matière noire, et également d'énergie noire. La matière que nous connaissons ne représente que quelques pourcents du contenu de l'univers, si tant est que les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation soient les bonnes. Et donc il a avant tout le monde compris comment mettre tout ça dans un modèle théorique cohérent. Et par exemple, il avait calculé les petites fluctuations qu'on trouve dans le fond diffus cosmologique, la lumière résiduelle qui vient de la séparation de la matière et de la lumière qui s'est produite 400 000 ans après le Big Bang, des petites fluctuations qui expliquent comment plus tard ont pu se former autour de ces petits grumeaux les galaxies qui constituent la matière de l'univers.
Mais moi j'avais cru lire qu'on avait quand même des doutes sur la théorie du Big Bang il y a quelques mois. On avait...
Oui, il y a des petites crises, mais en tout cas il y a un modèle standard qui pour l'instant tient, et c'est lui qui parmi d'autres en a élaboré la structure fondamentale.
Et les deux autres
C'était plus attendu. Michel Mayor, astronome suisse, avec son thésar Didier Queloz, a mis au point un détecteur installé en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, qui a permis en 1995 de détecter la première exoplanète. Une exoplanète, c'est donc une planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. En l'occurrence, elle est dans la constellation de Pégase. Et ils ont été les premiers, ils ont donc tranché une très vieille question, est-ce qu'il y a d'autres mondes que le nôtre? Je parle pas de monde habité, mais au moins d'autres mondes, d'autres planètes.
Qu'est-ce que ça veut dire, un autre monde?
Bah, d'autres systèmes solaires, simplement l'étoile en question n'est plus le Soleil. Et en fait, depuis, on en a découvert énormément, il y a 4000, je crois, exoplanètes recensées aujourd'hui. Et donc, ils ont initié une technique qui a été complétée par d'autres, qui permet de voir aujourd'hui toutes sortes de planètes, tellurique ou pas, dans d'autres galaxies.
Ce qui surprend toujours, c'est le décalage entre la date des découvertes et l'année où ces découvreurs obtiennent le Nobel. Pourquoi attendre 20 ans, 25 ans?
Michel Mayor s'était attendu depuis très longtemps, et donc tout vient à point à qui sait attendre.
Mais pourquoi faut-il attendre autant? Est-ce que finalement l'Académie Nobel a peur de se tromper, a peur qu'une découverte scientifique soit invalidée? Parce que du coup, vos thésards, ils ont souvent les cheveux gris quand ils deviennent prix Nobel.
Il y a très peu de prix Nobel qui ont été donnés à des thésards. Il y a celui de Louis Dobreuil.
Ah oui?
Et plus récemment, celui de Toft,
j'aurais son nom. Thésard qui avait quel âge?
Physicien théoricien. Ah bah quand ils ont eu le prix Nobel, ils étaient plutôt âgés, oui, en effet. Pourquoi il faut attendre, je sais pas, il faut demander au comité Nobel. Disons qu'il faut que la découverte soit sûre, que soit confirmée par d'autres, ce qui est le cas ici.
Vous avez souvent étudié le temps, longtemps étudié le temps, et vous avez décidé de vous pencher sur le vide. Est-ce que ça a une existence, le vide, pour un physicien, Étienne Klein?
Je me suis intéressé au temps et j'ai arrêté parce que je butais comme d'autres sur les problèmes de langage, qu'est-ce qu'on appelle le temps. Et puis je pensais que le vide, a priori, c'était moins intéressant. En réalité, en étudiant cette question, j'ai découvert
vous avez buté sur des problèmes
que c'était
de
encore
aussi.
Plus passionnant. Alors, vous me demandez qu'est-ce que c'est que le vide? Alors, on pourrait dire le vide, c'est rien. C'est ce que disaient certains Grecs anciens. Et s'il est rien, bah c'est rien, quoi. Mais s'il est quelque chose, c'est-à-dire s'il n'est pas rien, s'il est quelque chose de particulier, alors faire le vide, ça consiste à ne pas retirer cette chose de particulier que le vide se trouve être. Sinon, on fait le néant. Autrement dit, le vide, c'est la définition canonique, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide.
Bon, mais ça, c'est une définition à la Raymond DeVos, quasiment, Étienne Klein.
Non, parce que justement, à partir du moment où la question du vide devient une question pour physiciens, et elle l'est depuis le XVIIe siècle, quand Galilée, Torricelli, Blaise Pascal ont fait des expériences qui ont montré l'existence, non pas du vide, mais en tout cas d'un certain vide, c'est-à-dire d'un volume dans lequel la matière est très raréfiée, eh bien c'est une question de physicien, et du coup, il faut prendre une théorie de référence, par exemple la mécanique de Newton, ou bien la physique quantique, ou bien la relativité, qui sont des théories qui nous disent ce qui existe, et qui nous disent aussi, parmi ce qui existe, ce qu'on peut retirer. Eh bien le vide, c'est ce qui reste quand on a retiré tout ce qu'on peut retirer, de sorte qu'il y a autant de vide qu'il y a de théories physiques de référence. Ce qui pose un problème logique, parce que s'il y a plusieurs vides qui cohabitent dans l'univers, ça veut dire que l'un en contient d'autres, et donc il n'est pas vide.
Il y a une phrase que ceux qui ignorent tout de la science connaissent, moi je la connais très bien, la nature a horreur du vide.
Oui, alors c'est une phrase qui a fait autorité pendant très longtemps. On la doit, je crois, à Aristote, même si j'ai pas pu retrouver la référence. Elle a été reprise par Roger Bacon. C'est l'idée que la nature déteste le vide et que cette haine qu'a la nature pour le vide agit comme une force qui modifie ou explique certains phénomènes. Par exemple, les Grecs pensaient que, enfin, observaient qu'on peut parfaitement faire coulisser une plaque de verre sur une autre plaque de verre. Elles coulissent bien, mais il est très difficile de les écarter l'une de l'autre. Explication, en les écartant, on crée entre elles un vide qui menace d'apparaître. Et la nature, qui a horreur du vide, demande aux plaques d'opposer la plus grande résistance à ce mouvement pour empêcher que le vide apparaisse. De même, quand vous aspirez du jus d'orange avec une paille, comment expliquait-on le phénomène à l'époque? Vous aspirez dans la paille, ça menace de créer du vide dans la paille. La nature demande donc au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide qui est en train d'apparaître se manifeste concrètement. Et ça, c'est faux.
Pourquoi?
Eh bien, c'est le XVIIe siècle qu'il a révélé, à la suite d'un problème que rencontraient les fontainiers de la ville de Florence. Ils essayaient de pomper de l'eau, puis au-delà de 18 coudées, 10 mètres, ça ne fonctionnait plus. Ils ont pensé que c'était un problème technique, et puis ils ont fini par écrire à Galilée, qui habitait tout près, il était assigné à résidence, on savait où le trouver. Et Galilée, juste avant sa mort, c'était en 1640, il était aveugle, mais il a compris que ça démontrait que la nature n'a pas horreur du vide et qu'en fait, il y a une pression de l'air, une pesanteur de l'air, ce qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique, qui appuie en l'occurrence sur le jus d'orange, si on prend cet exemple, le jus d'orange qui est dans votre verre. Quand vous aspirez dans la paille, ça diminue la pression. Donc la pression qui agit sur le jus d'orange qui est dans la paille est moins forte que la pression qui agit sur le liquide qui est dans le verre. Et c'est cette différence de pression qui fait monter le jus d'orange dans la paille.
Mais quand on était étudiant, Étienne Klein, on nous expliquait qu'on pouvait faire le vide. Il y avait des tubes à vide. Ça voulait dire quoi?
On peut le faire, mais c'est un vide partiel. Il reste quand même quelques atomes.
Qu'est-ce qu'il reste?
Il reste du rayonnement. Pour faire un vide absolu, le vide au sens de Newton, c'est-à-dire un espace, un temps, dans lequel il n'y a absolument rien. Pas le moindre gramme de matière, pas le moindre atome, mais si ce vide est dans un certain volume, les parois ont une certaine température, ça émet de la lumière, donc il y a du rayonnement. Donc le vide absolu au sens de Newton n'existe pas, parce que même dans l'univers, même si on va au-delà de l'atmosphère, le vide interstellaire, il y a le fond diffus cosmologique dont je parlais tout à l'heure, il y a des trucs.
On célèbre la science cette semaine, et c'est la raison pour laquelle je vous ai convié Étienne Klein. On voit que dans ce sujet du vide, comme dans le sujet du temps d'ailleurs que vous avez traité, on ne sait pas très bien où s'arrête la physique et où commence la métaphysique, où il est question de néant qui est une question plus métaphysique que physique, et où débute le vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment s'articule dans l'esprit d'un physicien avec des théories qui sont... bien souvent des théories qui nous paraissent quasiment mystiques?
La physique, la science en général, la métaphysique, la philosophie sont des disciplines séparées. Et il n'est pas question de les unifier. Simplement, parfois, les physiciens obtiennent des résultats qui sont théoriques, expérimentaux, qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler, ça a été ainsi nommé par Merleau-Ponty, des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire la physique n'a pas vocation à coloniser la philosophie. Mais à propos de certaines questions philosophiques très particulières, celle du temps, celle du réel, celle de la causalité, celle du vide, elle apporte des arguments qui viennent éclairer, peut-être même contraindre, l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Et donc, ça milite pour que physiciens et philosophes discutent. Et la frontière entre physique et métaphysique, elle évolue. Puisque, par exemple, si on prend l'exemple des prix Nobel que j'ai cité tout à l'heure, Michel Queloz qui découvre la première exoplanète, c'était quand même une question presque métaphysique. Et en même temps, une question de physique, puisque des astrophysiciens avaient expliqué qu'une telle exoplanète ne pouvait pas expliquer. Donc, il y a un problème qui est posé depuis très longtemps, qui est tranché. Il y a un avant et un après qui coupe l'histoire en deux.
Aujourd'hui, il y a une question de métaphysique qui devient quasiment une question quotidienne quand on lit des journaux. Et c'est la question de la fin du monde, la question de l'effondrement. Qu'en pense le physicien que vous êtes, Étienne Klein ?
L'effondrement, il faut parler de quoi ? Il est question quand il s'agit d'effondrement. Est-ce que c'est la planète ? Non. Est-ce que c'est l'humanité ? Peut-être. Est-ce que c'est la biodiversité ? Certainement. Moi, je suis pas du tout collapsologue. En fait, le problème, c'est que les scientifiques qui font des découvertes aujourd'hui, il y a ceux qui, comme les astrophysiciens, les physiciens des particules, sont enthousiasmés par leurs découvertes. Et puis, il y en a d'autres, ceux qui font de la climatologie, qui étudient la biodiversité, les questions d'énergie, de pollution, qui prévoient le pire. Et ça, c'est assez nouveau que des scientifiques soient gênés par les découvertes qu'ils font parce qu'elles sont l'indice de difficultés à venir. Moi, je pense que ce qui est menacé aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'humanisme que l'humanité. C'est-à-dire le sentiment global que nous appartenons à la même espèce, et que nous sommes dans le même bateau et que nous devons donc être solidaires. C'est ça qui me paraît en crise. Il y a l'impression que dans le futur, pour survivre, il faudra avoir de la chance. Et tant pis pour ceux qui n'auront pas de chance.
Mais il y a différentes catégories de scientifiques aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que là, l'humanité verse vraiment dans l'irrationalité et qu'il faudrait raison garder et avoir confiance dans notre capacité à nous jouer des défis qui sont devant nous. Et puis d'autres scientifiques qui pensent, comme vous le dites, que la situation est grave et que nous n'en avons pas conscience. Vous appartenez à quelle catégorie ?
Alors, il y a les optimistes et il y a les pessimistes, qui sont deux attitudes stériles, puisque quand vous êtes optimiste, vous dites ça va bien aller sans rien faire, et si vous êtes pessimiste, vous dites c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. J'aime beaucoup cette définition de l'optimisme que donnait Jean d'Ormesson. Un optimiste, c'est quelqu'un qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Je n'appartiens pas à cette catégorie, d'ailleurs je ne fais pas de mots croisés. Moi je pense que le défi de l'humanité, c'est de pouvoir configurer un futur dans lequel on souhaite aller en tenant compte de ce que nous savons. Et c'est ça qui a mis l'idée en crise, c'est-à-dire l'idée de progrès, pardon, en crise. C'est que l'idée de progrès, elle suppose qu'on configure le futur d'une façon crédible et attractive, de sorte que nous fassions les efforts et même les sacrifices nécessaires pour faire advenir cette nouvelle vision de la société.
Il n'y a pas que l'idée de progrès qui est en crise.
C'est pas attractif, et quand c'est attractif, c'est pas crédible. C'est ça qui a mis, entre autres choses, l'idée de progrès en crise.
Il y a aussi, pardonnez-moi, je vous ai coupé, il y a aussi l'idée de science qui est en crise et la confiance que certaines personnes ont vis-à-vis de la science. Celle-ci aussi est en quelque sorte en train de s'atténuer, Étienne Klein.
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut mesurer l'évolution de cette tendance de façon scientifique, justement, mais ce qu'on voit apparaître en effet, qui n'existait pas quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'appelle, moi, un populisme scientifique. C'est-à-dire des gens qui utilisent le soi-disant bon sens, ce qu'ils ressentent, pour contester ce que disent les scientifiques. Or, la science, si on prend par exemple la physique moderne, celle qui naît au XVIIe siècle avec Galilée et les autres, c'est une science dont les lois contredisent le sens commun. Ce sont même des lois qui contredisent l'observation. Quand Galilée dit que tous les corps tombent à la même vitesse, il dit quelque chose que personne n'a jamais vu. Quand vous faites tomber des corps de masse différente, ils tombent à des vitesses différentes. Et donc, faire de la science, c'est d'une certaine façon penser contre son cerveau. Et non pas avec. C'est admettre des vérités que notre intuition est incapable de trouver toute seule.
Et justement, Étienne Klein, il y a beaucoup de scientifiques qui vous disent aujourd'hui que lorsqu'ils font des conférences ou lorsqu'ils sont interpellés, bien souvent, on leur dit que tous scientifiques qu'ils sont, on n'a plus confiance dans ce qu'ils disent.
Oui.
Qu'est-ce que ça suscite en vous ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que les journalistes, on comprend qu'on n'ait pas confiance dans les journalistes, mais les scientifiques. Pourquoi vous êtes dans la même marque que nous ?
Je fais des conférences et j'observe en effet le phénomène. Alors, On peut lui trouver toutes sortes d'explications, par exemple le relativisme philosophique, qui est un petit peu comme le cholestérol, c'est-à-dire qu'il y a le bon et le mauvais. Le bon relativisme, c'est celui qui fait voir que les idées scientifiques, notamment, ne naissent pas hors sol, elles apparaissent dans des contextes. Einstein, s'il n'avait pas été au bureau des brevets en 1905 à Berne, il n'aurait pas trouvé aussi rapidement la bonne interprétation de la théorie de la relativité. Maintenant, dire que les théories physiques sont rivées aux conditions de leur apparition, qu'elles ne s'émancipent jamais des conditions dans lesquelles elles sont nées, c'est à mon avis une stupidité. La théorie de la relativité aujourd'hui est plus valide qu'en 1905. Il faut tenir compte de cette émancipation des idées physiques par rapport au contexte de leur apparition. Maintenant, je pense que il faut faire la distinction entre les connaissances et les croyances, mais comme dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, des croyances, des opinions, des informations, des commentaires, des bobards, des fake news, les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent. Et quand on a affaire à quelqu'un qui a une croyance, eh bien il pense ou d'autres pensent que ça porte une connaissance. Quand on diffuse une connaissance, on croit qu'on diffuse une croyance. Et je pense que ça vient du fait que nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances. Pardon, vous savez, tout le monde sait que la Terre est ronde. Mais qui sait dire comment on a su que la Terre est ronde?
Certains en doutent.
Oui, mais justement, ils ont beaucoup d'arguments, ceux qui en doutent. Les platistes ont beaucoup d'arguments. Et ils les diffusent abondamment sur Internet. Mais ceux qui savent que la Terre est ronde ne sont pas toujours capables de dire comment on l'a su. Ce qui les fragilise.
J'ai eu entre les mains un ouvrage publié dans une collection que vous dirigez.
Oui, justement, j'ai créé une collection qui s'appelle « Comment a-t-on su ?» parce que j'ai été un peu paniqué quand j'ai vu que beaucoup de gens autour de moi se moquaient des platistes et étaient incapables de me dire comment on a su que la Terre est ronde.
Étienne Klein, un cerveau de physicien comme le vôtre, lorsqu'il voit, par exemple, l'incendie de l'usine Lubrizol, je citais la une du Parisien il y a quelques instants, avec des interrogations, alors jugées légitimes par le Parisien, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, je suis pas chimiste, mais je comprends tout à fait le désarroi de la population. Il y a toutes sortes de messages qui circulent. Certains sont justes, certains sont approximatifs, certains sont prématurés. Comment un citoyen pourrait-il se faire une opinion devant ce flux d'informations qui sont contradictoires, qui n'ont pas les mêmes sources? À qui accorder du crédit? Moi, je pense que ça, c'est un problème général qui nous fait voir que dans les situations complexes, parvenir à trouver la bonne information, celle qui est fiable, c'est extrêmement difficile. Et je pense que c'est ce qui nous attend au XXIe siècle, parce que toutes sortes d'informations cohabitent, se contredisent, et c'est impossible quasiment de faire le tri.
Mais alors, le citoyen que vous êtes, et non plus le physicien, qu'est-ce qu'il pense de l'incendie de Lubrizol? Pense-t-il que il y a des manières de faire la vérité et qu'on ne les a pas faites? Est-ce que vous avez une, en quelque sorte, une doctrine à ce sujet?
En fait, je pense qu'il n'y a pas de doctrine qui soit vraiment efficace à 100%, puisque l'analyse prend du temps. Or, la population, légitimement, demande des informations immédiatement pour savoir s'il faut rester, partir, si c'est dangereux. Et il y a une sorte de contradiction temporelle qui apparaît là.
Étienne Klein, ce qui est sans être tout à fait, votre essai sur le vide, il est publié aux éditions Actes Sud. C'est fin et savant, comme vous savez le faire, Étienne, ce qu'on entend. D'ailleurs, dans vos émissions sur France Culture, vous serez rejoint par un vulgarisateur des maths, Michael Launay. Il publie le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens. Et c'est publié chez Flammarion.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
8h21, France Culture célèbre la science grâce à deux scientifiques, à deux vulgarisateurs. Il y en a un que vous connaissez bien puisqu'il est notamment producteur sur cette chaîne. Il s'agit d'Étienne Klein. Le physicien publie Ce qui est sans être tout à fait, un essai sur le vide chez Actes Sud. Et j'accueille un mathématicien, Michael Launay. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens chez Flammarion. J'ai ouvert votre livre et alors là, j'ai eu une épiphanie. J'ai enfin compris ce qu'était un logarithme. Et je dois dire que lorsque j'ai évoqué ce livre avec mes camarades de France Culture, il a suffi que je dise « Un homme m'a enfin permis de comprendre ce qu'était un logarithme » pour qu'on me dise « Invite-le, Michael Launay ». Je vais donc vous demander de nous expliquer ce qu'est un logarithme.
Les logarithmes, c'est un outil qui a été développé par un mathématicien qui s'appelle John Napier au début du XVIIe. et qui est en fait une astuce. C'est une astuce pour simplifier les calculs au départ, parce que les astronomes, les physiciens à une époque avaient beaucoup de calculs à faire, notamment beaucoup de multiplications. Et les multiplications, c'est plus compliqué à faire que les additions. Et donc, John Napier s'est dit, et si je transformais les multiplications en additions? Et il a trouvé un moyen, comme ça, une correspondance de nombres, c'est-à-dire qu'il a dressé des tableaux entiers, des pages entières de tableaux de nombres. Et quand on regarde dans ces tableaux, dans ces tables de logarithmes, eh bien, on cherche les deux nombres qu'on veut multiplier, on regarde à quel logarithme ils correspondent, et puis on a juste à les additionner pour obtenir le résultat. Et donc, au lieu d'avoir une multiplication qui peut prendre un certain temps, eh bien, on a une addition qui va être deux fois plus rapide à faire et qui va pouvoir gagner du temps à tous les physiciens de l'époque qui, parfois, pouvaient passer des journées entières pour faire un calcul parce que, évidemment, à l'époque, on n'avait pas les machines modernes qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs. Et pour les astronomes, faire les calculs à la main, c'était une grande partie de leur temps.
Alors, donnez-nous un exemple. Il y en a un certain nombre dans votre livre, Le théorème du parapluie. Qu'est-ce que ça donne, donc, ces logarithmes lorsqu'on les fait non pas avec une machine à calculer, mais avec des tables?
Par exemple, imaginez qu'on veuille faire une multiplication qui est 8 fois 16. Eh bien, on va regarder dans nos tables de logarithmes, on va regarder quel nombre correspond à 8, on va obtenir 3. Et puis, quel nombre correspond à 16, on va obtenir 4. Et là, au lieu de faire 8 fois 16, on va simplement faire 3 plus 4. 3 plus 4, ça fait 7. Et maintenant, on re-regarde à nouveau dans nos tables de logarithmes et on revient en arrière, on regarde qu'est-ce qui est en face du 7, et en face du 7, on voit qu'il y a 128. Et donc, on en déduit que le résultat de 8 fois 16, c'est 128. Et là, on a fait en quelques secondes, avec notre dictionnaire de logarithmes qu'on a sous la main, on a fait en quelques secondes une multiplication.
Alors, ce qui est très amusant dans votre livre, c'est qu'on se rend compte de ce qu'il y a dans l'esprit d'un mathématicien lorsqu'il va, par exemple, dans un supermarché. Et il voit des prix, ça, c'est un peu n'importe qui les voit, ces prix. Mais lui, ce qu'il voit, c'est une loi que vous évoquez, la loi de Benford, et qui, là aussi, m'a laissé tout à fait songeur, je dois dire.
Ça, c'est assez curieux parce qu'on l'a sous les yeux tous les jours, mais tant qu'on n'y fait pas attention, eh bien finalement, on s'en rend pas vraiment compte. Si vous allez dans votre supermarché et que vous regardez tous les prix qui s'alignent sur les étagères, eh bien, en y prêtant un peu plus attention, vous verrez que la plupart des prix commencent soit par 1, soit par 2, par 3 un peu. Mais il y en a, plus le chiffre est grand, moins il y en a. Il y a beaucoup de prix qui vont commencer des 1, et quelques, des 1 euro et quelques centimes. Mais des prix à 8 euros ou 9 euros et quelques, eh bien, il y en a beaucoup moins. Et ça, eh bien c'est le principe de la loi de Benford. Et ce déséquilibre-là, eh bien, on peut se demander comment ça se fait, pourquoi, comment est-ce qu'il se produit. Et il va falloir commencer à réfléchir.
Il faut encore le répéter parce que moi, il a fallu que je relise ça plusieurs fois pour m'en convaincre. C'est-à-dire qu'il y a plus de prix qui débutent par 1 que par 2 et ainsi de suite. Et cela est vrai dans un certain nombre de phénomènes parce que, bien entendu, c'est pas propre au supermarché. Et sinon, on pourrait se demander si c'est tout simplement pas une astuce marketing, Michael Launay.
Non, c'est vraiment une loi de la nature. Si vous regardez, par exemple, les planètes du système solaire, eh bien, il y en a la moitié dont le diamètre commence par un 1. Par exemple, la Terre, c'est 12 000 et quelques, et bien 12 000, ça commence par un 1. Et donc, voilà, on peut se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une répartition équitable des premiers chiffres? Et pour ça, il va falloir changer de point de vue, et les logarithmes, justement, vont pouvoir nous aider à...
Pourquoi? Expliquez-nous, justement, Michael Launay.
Eh bien, parce que les logarithmes font la transition entre la multiplication et l'addition. Et finalement, ce qui est important dans la loi de Benford et dans la répartition des nombres, c'est pas tant l'écart direct entre les deux nombres, mais plutôt le rapport multiplicatif. C'est-à-dire que si vous regardez les prix qui sont entre 1 euro et 2 euros, eh bien, vous avez un rapport de 1 à 2 entre les deux. C'est-à-dire qu'un prix à 1,99, c'est deux fois plus cher qu'un prix à 1 euro. Alors qu'un prix à 8,99, c'est pas deux fois plus cher que 8 euros. Donc, en termes de rapport, il y a moins d'écart entre 8 et 9 qu'entre 1 et 2. Donc l'intervalle, d'un point de vue multiplicatif, l'intervalle entre 1 et 2, donc l'intervalle des prix qui commence par 1, est plus large que l'intervalle des prix qui commence par 8.
Étienne Klein.
Moi, je trouve ça magnifique, hein, découvrir qu'on peut faire des multiplications en ne faisant que des additions. C'est quand même magique. Et puis ce que démontre Michael Launay à ce micro, mais aussi dans ses livres ou ses vidéos, je connais une vidéo qui s'appelle « La face cachée des tables de multiplication » qui est absolument extraordinaire, qui change le rapport qu'on a avec cette opération. Et puis ça illustre, je trouve, un texte de Nietzsche dans « Humain trop humain » qui s'appelle « L'avenir de la science ». Un texte très court dans lequel Nietzsche explique que la science donne beaucoup plus de plaisir à ceux qui en font qu'à ceux qui l'apprennent. Et il donne l'exemple des tables de multiplication en disant « on les apprend par cœur sans avoir aucune idée de l'effort d'abstraction » qu'ont dû faire ceux qui les ont mis sur pied. Et le plaisir qu'on a à apprendre la science vient de ce qu'on peut retrouver l'esprit des créateurs. Qu'est-ce qui a fait que ces gens ont fait des découvertes? Et une fois qu'on sait comment les découvertes sont advenues, on change complètement le regard qu'on porte sur elles.
Mais vous, Étienne Klein, on a quelques fois parlé, les maths font partie de votre culture de base. Vous êtes évidemment un matheux parce que j'imagine que tout physicien en est un aussi de toute façon. Est-ce
Depuis
que ça veut dire que votre manière de voir le réel, c'est ce qu'on découvre dans le livre de Michael Launay, est-ce que votre manière de voir le réel se fait au travers de lunettes mathématiques?
Bah oui, avec une question en surplomb qui est d'où vient que les physiciens font des mathématiques? C'est Galilée qui a posé cette hypothèse qui a ensuite été explorée par tous les autres, Newton, etc. D'où vient que les lois physiques s'expriment sous forme d'équations, d'équations différentielles ou autres? Comment se fait-il que ça marche? Est-ce que ça épuise le réel? Ou est-ce que ça ne permet d'entrer en contact qu'avec une petite partie du réel? D'où vient ce qu'on appelle l'efficacité des mathématiques en physique, qui est de plus en plus impressionnante, hein. On a parlé des prix Nobel de cette année, mais il y a quelque temps, on a découvert des ondes gravitationnelles, on a découvert le boson de Higgs, qui sont des entités physiques qui avaient été prédites bien avant qu'on les détecte. Et on les a prédites grâce à des arguments mathématiques.
Michael Launay, donnez-nous des exemples de la vie secrète des tables de multiplication.
Ah, sur les tables de multiplication, il y a plein de choses à dire. La vidéo dont parlait Étienne à l'instant...
Oui, parce que vous êtes un YouTuber aussi, il faut le dire. Vous avez des vidéos sur Internet qui, effectivement, témoignent d'une grande capacité de jongler avec des notions mathématiques qu'on apprend à l'école et qu'on redécouvre avec vous.
Et puis surtout, ça permet souvent de visualiser. C'est-à-dire qu'une vidéo, ça permet de montrer des choses, de montrer des objets, de voir comment les figures géométriques peuvent bouger, peuvent évoluer sous nos yeux. Et donc, effectivement, cette vidéo, c'est une vidéo où on montre une visualisation graphique des tables de multiplication et où on relie simplement chaque nombre à son double si on regarde la table de 2, son triple si on regarde la table de 3. Et puis, on voit des figures qui apparaissent sous nos yeux. On voit une sorte de danse des nombres qui se mettent à bouger et à évoluer en formant des motifs dont on n'aurait jamais pu penser qu'ils apparaîtraient comme ça spontanément. Et puis quand on parle des multiplications aussi, effectivement, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une sorte de jubilation à pratiquer soi-même. Moi, je me rappelle que à l'école, quand j'apprenais les tables de multiplication, on nous demandait de l'apprendre un peu par cœur comme ça, on nous donnait les règles. Et notamment.
C'est ce qu'on fait avec ses enfants lorsqu'on doit leur faire réciter ces tables de multiplication. On a tort de les faire réciter par cœur?
Alors, en tout cas, c'est bien de comprendre. C'est-à-dire que les mathématiques, ça devient jubilatoire à partir du moment où on met du sens derrière, où on comprend comment ça fonctionne. Je me rappelle que moi, quand j'apprenais mes tables de multiplication, par exemple, on m'avait dit comme une règle absolue, comme ça, que une multiplication, le résultat ne changeait pas selon l'ordre dans lequel on fait la multiplication. 3 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 3. Mais on m'a donné ça comme une règle, sans me dire pourquoi et d'où ça sortait. Et à partir du moment où on commence à réfléchir à ça avec des enfants, je fais des ateliers dans des écoles, eh bien, il y a une sorte de jubilation qui apparaît et un plaisir d'essayer de comprendre. C'est-à-dire que plutôt que de le poser comme une base, on peut le poser comme une conjecture. Est-ce que c'est toujours vrai?
Alors parce que 7 fois 3 et 3 fois 7, c'est pas la même chose?
Alors pourquoi est-ce que ce sera la même chose? Justement, 3 fois 7, c'est 7 plus 7 plus 7. 7 fois 3, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Comment par magie on tombe sur le même résultat et comment par magie, quelle que soit la multiplication qu'on va prendre, même 732 fois 438, ce sera la même chose que 438 fois 732. Comment par magie on va retomber à chaque fois sur le même résultat? Et est-ce qu'on est sûr que ça marche à tous les coups? Comment est-ce qu'on en est sûr? Peut-être ça marche jusqu'à 10 fois 10, mais qu'au-delà, eh bien, ça marche plus. Et quand on commence à réfléchir à ça, eh bien, on se dit, on commence à faire des maths à ce moment-là. On commence à se dire quel est le sens d'une multiplication, comment est-ce qu'on peut la représenter. Et la représentation classique qu'on donne à ça, c'est une forme de rectangle. C'est-à-dire, vous imaginez une boîte de chocolat dans laquelle vous avez 3 rangées de 7 chocolats. Bah, si vous les comptez en rangées, vous avez 7 plus 7 plus 7. Si vous les comptez en colonnes, vous avez 3 plus 3 plus 3. Donc, fatalement, ça doit donner le même résultat. Et ça, quand les enfants comprennent ça, après avoir un peu galéré dessus, parce que c'est important aussi, le goût de l'effort en mathématiques, et de se dire, quand on fait de la recherche, c'est pas évident du premier coup, mais il y a un moment donné où il y a un déclic, il y a une sorte de « waouh » qui apparaît dans notre esprit, et une étincelle, et cette étincelle de compréhension, elle procure un plaisir qui est immense.
Étienne Klein.
Ça donne le vertige, hein. C'est-à-dire qu'on voit des résultats qu'on considère comme banals, la commutativité de la multiplication, pour ne pas la nommer, mais dès qu'on s'y arrête... Ça donne le vertige. La table de chocolat, c'est toujours très utile. J'avais invité Alain Cohn il y a quelques mois à la conversation scientifique. Il avait expliqué la loi de la récurrence.
C'est quoi la loi de la récurrence?
C'est le fait que si un résultat est vrai, pour faire une démonstration, on postule que le résultat est vrai jusqu'à un certain rang et on montre qu'on peut, de proche en proche, le montrer de façon absolue. Et les mathématiques sont comme ça une source de vertige. Moi, je me souviens d'un professeur qui nous avait Racontez l'histoire suivante. Vous arrivez à un hôtel qui a un nombre infini de chambres. Cet hôtel est complet. Toutes les chambres sont occupées. Donc vous demandez une chambre, il dit pas de problème. Le client qui est dans la chambre numéro 1, je le mets dans la 2. Celui qui est dans la 2, je la mets dans la 3. Celui qui est dans la 4, je la mets dans la 5, etc. Donc je vous donne la 1. Donc l'hôtel est complet, mais il y a une place. Et là, je m'étais dit, c'est intéressant.
Michel Launay, il y a aussi des choses sur les nombres dans votre ouvrage, Le théorème du parapluie, vous publiez chez Flammarion. Et alors, ça parle à tout journaliste parce que dans les informations, on donne des nombres, des prix, on donne des dépenses. Alors, ces dépenses, elles sont en millions, en milliards. Et finalement, il y a des ordres de grandeur. Et ces ordres de grandeur, ils deviennent encore plus compliqués quand on a affaire à des billions, à des trillions, par exemple, pendant les crises économiques. Et on voit finalement qu'assez rapidement, on se mélange les pinceaux. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée, finalement, des nombres. Alors, non seulement des nombres précis, mais même des ordres de grandeur. Ce qui, évidemment, nuit à notre intelligibilité, cette fois-ci, du monde économique. Et justement, il y a beaucoup de choses sur ces ordres de grandeur dans le théorème du parapluie.
Effectivement, notre cerveau est très mauvais pour penser les grands nombres et pour penser des choses aussi vastes que ça. C'est-à-dire que quand on dit, encore une fois, à l'école, quand on est petit, on nous dit qu'il y a une infinité de nombres, mais on ne prend pas du tout la mesure de ce que ça signifie, de à quel point l'infini, c'est vraiment immense.
L'infini, c'est vraiment grand à la fin.
Infini, et à quel point on a des choses qui dépassent notre entendement là-dedans. Et il y a beaucoup de cultures qui se sont amusées comme ça à jouer avec les grands nombres, à se dire, Archimède déjà avait écrit un texte pour dire qu'il y avait un dicton populaire qui disait qu'il y avait une infinité de grains de sable sur la Terre. Il a écrit un texte pour dire non, il n'y en a pas une infinité, il y en a un nombre très grand. Et je peux faire un calcul et vous dire le nombre de grains de sable sur toute la Terre est plus petit que ce nombre-là. Et donc on peut jouer comme ça avec les grands nombres et se dire bah, finalement, même les choses qu'on pense infinies, la plupart du temps, quand on entend le mot infini dans une conversation, eh bien cet infini, il est utilisé d'une mauvaise façon. Eh bien il faudrait plutôt dire justement immense ou très grand, mais c'est rarement vraiment infini. Et effectivement, quand on pense aux noms comme millions, milliards, etc., il y a une petite expérience qu'on peut faire, c'est imaginer que vous mettez à votre gauche le nombre 1000 et à votre droite le nombre 1 milliard, donc séparé de 50 centimètres, disons. Où est-ce que vous placez le million entre les deux? Où est-ce que vous mettez le curseur? Est-ce que le million, il est pile entre 1000 et 1 milliard? Est-ce qu'il est plus proche de l'un, plus proche de l'autre? Et ça, en général, quand on pose cette question, l'intuition première de la plupart des gens à qui on pose cette question, c'est de mettre le million à peu près au milieu de 1000 et 1 milliard. Et puis après, quand on y réfléchit, on dit « Ah non, il est peut-être un petit peu plus proche de 1000 quand même ». Et puis, quand on y réfléchit vraiment et qu'on fait le calcul, eh bien, on se rend compte qu'un million, il est collé à 1000. C'est-à-dire qu'il est vraiment tout près. C'est-à-dire, s'il y a un mètre de distance entre votre 1000 et 1 milliard, le 1 million, il est à 1 millimètre de 1000. C'est-à-dire qu'un million, c'est grand, c'est beaucoup plus grand que 1000. Mais par rapport à un milliard, un million, c'est encore minuscule. C'est absolument ridicule, un million, par rapport à un milliard.
Et là aussi, les logarithmes peuvent nous aider.
Bah, effectivement, les logarithmes, ça nous permet de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les logarithmes, c'est aussi, ça a plein d'interprétations différentes, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi, ça peut compter le nombre de chiffres d'un nombre. Donc, un million, c'est comme ça, ça a 6 zéros. Un milliard, ça a 9 zéros. 1000, ça a 3 zéros. Et donc, d'une certaine manière, d'un point de vue logarithmique, eh bien, on retrouve un peu notre intuition première. C'est-à-dire que si on compte non pas en valeur, mais en nombre de zéros, donc en logarithme, eh bien, un million est bel et bien, d'une certaine manière, à mi-chemin entre 1000 et 1 milliard.
Ce qui m'a toujours fait rêver Étienne Klein dans la physique vulgarisée, puisque c'est la seule à laquelle j'ai accès, celle que vous faites, par exemple, c'est cette capacité là aussi de jongler avec des nombres qui sont absolument inimaginables, qui sont très éloignés de notre univers quotidien et pourtant que vous saisissez. Comment vous faites justement, vous, pour les saisir? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils signifient pour vous?
C'est ce qu'on appelle les ordres de grandeur et on est habitué à les manipuler parce que dans l'univers, on trouve des objets très petits, les particules élémentaires et puis les grandes structures.
Ça fait combien, par exemple,
galaxies.
Un objet très petit?
Par exemple, un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire c'est des objets qu'on peut en aligner 10 milliards sur un mètre. Et puis il y a des grandes structures, les galaxies. Alors les distances se comptent en années-lumière. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Elle va à 300 000 km par seconde. Donc vous faites le calcul, ça fait des distances vertigineuses. On est habitué à ça. Mais on peut être, malgré cette habitude, se trouver dans l'embarras quand on est en face d'un médecin du travail, ce qui m'arrive une fois par an, qui nous demande de dire notre niveau de stress sur une échelle qui va de 1 à 10.
Et alors vous dites quoi? Vous n'avez pas l'air très stressé, généralement.
Non, ça m'arrive quand même. Et j'essaie de lui demander, est-ce que 10, c'est deux fois plus stressé que 9? Ou est-ce que 10, c'est deux fois plus traité que 5? Autrement dit, est-ce qu'on est dans une échelle logarithmique ou une échelle linéaire? Il m'a dit,
mais. Donc c'est lui que vous stressez?
Ben oui, parce que je lui demande, il me dit, répondez avec votre ressenti. Mais c'est pas le ressenti qui va décider de cette question. Et sur l'infini, on en sent souvent, par exemple, on dit, l'hydrogène, c'est, pour la fusion nucléaire, c'est une énergie presque infinie. Presque infinie, c'est une drôle d'expression. On peut pas être un peu infini. On est infini ou on l'est pas. On peut pas devenir infini. Pour l'être, il faut l'avoir été. Et donc, il y a comme ça dans le langage, qui est la grande question des vulgarisateurs. La science n'est pas spontanément dite par le langage ordinaire. Elle dit autre chose que ce que disent nos phrases. Et tout le travail du vulgarisateur, celui de Michael Lonet pour les mathématiques, le mien pour la physique, c'est de creuser dans la langue, une langue étrangère dans laquelle on va pouvoir dire les nouveautés qui viennent de la science.
Michael Lonet, il y a des choses d'ailleurs dans le théorème du parapluie sur la langue mathématique, ce que vous considérez comme étant possible d'exprimer avec les maths.
Bah, en fait, la langue mathématique, effectivement, c'est une langue un peu à part entière qui s'éloigne du langage courant. Et surtout, c'est une langue qui parle de choses abstraites. C'est-à-dire que les mathématiques, ça ne parle pas des choses réelles. Ça parle, on crée d'une certaine manière en mathématiques des mondes imaginaires. Et puis après, ces mondes imaginaires, on espère qu'en faisant des expériences à l'intérieur, eh bien, on va trouver des choses qui sont proches de ce qu'on va retrouver avec les expériences dans le monde réel. Mais effectivement, il y a un mathématicien qui s'appelle Bertrand Russell qui a dit que la mathématique peut être définie comme la discipline dans laquelle on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai. Parce qu'effectivement, cette abstraction fait que chaque mot mathématique, d'une certaine manière, englobe plusieurs réalités à la fois. Rien que les nombres, si je dis le mot 3, est-ce que c'est 3 chaises? Est-ce que c'est 3 livres? Est-ce que c'est 3 n'importe quoi? Ou est-ce que, au contraire, eh bien, 3, pour les mathématiciens, c'est juste un objet pour lui-même qui ne compte rien et qui existe dans ce monde mathématique de façon parfaitement abstraite. Et ça, c'est absolument fascinant parce que justement, ça nous dit que les mathématiques ont leur langage à elles et que d'une certaine manière, on ne sait pas vraiment de quoi on parle.
Mais alors, justement, est-ce que le fait d'avoir, par exemple, cette évocation des logarithmes que nous avions tout à l'heure, qui consiste à rendre concret ce qu'est un logarithme, quand on dit finalement que c'est le lien entre une addition et une multiplication, est-ce que c'est utile à la compréhension des mathématiques ou nuisible parce que peut-être qu'il faudrait rester dans cet univers abstrait et ne pas chercher à traduire? Vous savez, quand vous apprenez l'anglais, on vous dit « cherche pas à traduire », il faut rester dans l'anglais. Est-ce qu'il ne faudrait pas rester en mathématiques?
Au contraire, ce qui est intéressant justement dans les sciences, c'est de multiplier les points de vue. C'est-à-dire que la première fois qu'on va voir un sujet qu'un professeur va nous enseigner, eh bien, on va le découvrir d'une manière, on va le découvrir à sa façon, à la façon dont lui l'a expliqué. Puis après, on va lire des livres, on va le découvrir un peu avec des mots un peu différents, avec un autre point de vue. Et puis, à un moment donné, on va y réfléchir soi-même et on va trouver soi-même sa façon de penser ce sujet. Et plus on comprend un sujet de plein de façons différentes, plus on trouve de points de vue différents sur le même sujet, d'angles différents, et plus on va avoir l'impression d'une compréhension profonde, d'une compréhension qui est encore une fois très jubilatoire.
Mais Étienne Klein, vous disiez tout à l'heure, penser en scientifique, c'est penser contre son cerveau, parce que on a beaucoup de choses en physique qui sont profondément contre-intuitives et qui donc ne sont pas traduisibles dans un langage naturel ou en tout cas dans un langage verbal.
Il faut travailler la langue, il faut être en lutte avec la langue. Quand on parle du temps, par exemple, il faut voir ce que nos expressions familières impliquent sur le temps, qui peut être contredit par les théories physiques, celles de Newton, celles d'Einstein ou d'autres. Maintenant, on parlait dans la première partie de l'émission de la distinction qu'il faut faire entre le vide et le néant. Mais les mathématiciens, ils ont parfaitement théorisé cela. Ce qu'on appelle l'ensemble vide en mathématiques, c'est un ensemble dans lequel il n'y a rien. Mais c'est un ensemble, c'est pas moins qu'un ensemble, c'est un ensemble au sens plein du terme. Simplement, son cardinal, son effectif est réduit à zéro. Et donc, il y a une distinction qui est faite entre le néant et l'ensemble vide.
Est-ce que ça vous parle justement, le néant et le vide, Michael Lonet? Qu'est-ce que ça inspire pour un mathématicien, ce qu'évoque Étienne Klein en physicien?
D'autant plus que certaines théories mathématiques se basent quasi exclusivement sur on part d'un ensemble vide et puis après qu'est-ce qu'on construit à partir de ça, et on construit des ensembles qui contiennent des ensembles vides, et puis on peut d'une certaine manière en mathématiques construire des théories absolument fabuleuses à partir de quasiment rien. On pose quelques postulats de base, on pose quelques règles de logique, et puis on va à partir de ça créer tout un monde mathématique, tout un monde qui sort uniquement de notre esprit.
Mais quasiment rien, c'est déjà quelque chose.
Voilà. Et puis ce qui est fabuleux avec ça, c'est...
Est-ce que le zéro, par exemple, c'est le néant pour vous, esprit mathématique, Michael Launay ?
Ça, c'est toujours... C'est dans l'histoire des nombres, c'est toujours assez impressionnant de voir l'apparition du zéro. Non, le zéro, ce n'est pas rien. C'est un nombre. Et d'ailleurs, on peut avoir moins que zéro, puisqu'on a des nombres négatifs. Et donc, si on peut avoir moins que zéro, c'est que zéro, c'est déjà quelque chose.
Oui, il y a d'ailleurs beaucoup de choses sur le fait d'avoir un nombre négatif pour mesurer, par exemple, la profondeur des océans. Et vous évoquez finalement les paradoxes que cela crée. Bref, tout cela, Étienne Klein, nous met quand même dans l'obligation d'appréhender autrement le réel, autrement que nous le faisons au travers donc de ces catégories traditionnelles.
Oui, mais il ne faut pas présenter la science comme une pure étrangeté. Le fait d'en parler, ça relève de ce que Bergson appelait une politesse de l'esprit. Je suis physicien, vous êtes mathématicien, vous êtes journaliste. Nous devons chacun pouvoir dire à l'autre ce que nous faisons et comment nous raisonnons.
Je vais vous proposer d'appréhender différemment tous les deux d'autres pans du réel. Vos très bons ouvrages, Étienne Klein, ce qui est sans être tout à fait. Votre essai sur le vide est publié chez Actes Sud. Michael Launay, le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens, c'est publié chez Flammarion.